Alors, la vie intense. Tout d'abord, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation qui est de vous dire, je sais ce que ça fait qu'être moi, mais je ne peux pas savoir ce que ça fait qu'être quelqu'un d'autre. Par exemple, Yvette, que je connais, que j'apprécie, eh ben, je ne pourrais jamais ressentir exactement comme elle ressent, comme elle se ressent elle-même. Et donc on peut comme ça fantasmer là-dessus quasiment jusqu'à l'obsession et se dire mais pourquoi c'est moi je suis moi et pourquoi je ne suis pas un autre, etc. etc. Et donc, on ressent en fait fortement ce sentiment d'être soi et d'être personne d'autre. Alors, cette intensité de sa propre vie que l'on ressent, et qui va être un sentiment plus ou moins fort par rapport aux événements qu'on va vivre dans sa vie, cette intensité de sa propre vie, c'est précisément le sujet de ce dont parle ce livre, La vie intense, une obsession moderne. Et j'ai trouvé que c'était une fabuleuse traversée de plusieurs siècles de philosophie qui sont revisitées à l'aune du concept d'intensité. Il part d'Aristote et il va jusqu'à nos jours. Alors, l'auteur Tristan Garcia a 36 ans. Il est romancier et philosophe. Alors, comme roman, par exemple, il est l'auteur d'un livre qui a eu le prix du livre Inter en 2016, qui s'appelle 7, le chiffre 7. Et ce livre-là, La vie intense, il l'a annoncé comme le début d'un triptyque, d'un ensemble de trois livres. Il qualifie celui-ci de livre éthique. Le deuxième livre, il le qualifie de livre politique. Il s'appelle Nous, et alors il est déjà paru. Et le troisième livre, il le qualifie de livre métaphysique, et il va paraître en 2018. Alors l'intensité, enfin, la vie intense, une obsession moderne. Une obsession moderne, ben, c'est une évidence, hein, quand on regarde, par exemple, on est à l'écoute de la publicité. On reçoit sans cesse des injonctions de vivre de manière intense. Les goûts doivent être plus intenses, les parfums sont plus intenses, les émotions qu'on vit doivent être plus intenses. Alors, cette promotion de l'intensité comme obsession moderne, c'est la promesse de quoi? Ben, selon Tristan Garcia, lui part de la constatation que ben, on croit plus trop à tout ce qui est transcendance, en tout cas dans la société civile actuelle. Donc on ne peut pas nous promettre autre chose. On peut uniquement nous promettre que d'être ce que l'on est déjà. On ne peut pas nous promettre d'être autre chose que ce que l'on est déjà. Par contre, on va nous promettre de l'être, eh bien, de manière de plus en plus intense. Et ce que l'on est, c'est quoi? Ben, c'est nos sentiments, c'est nos affects, c'est nos perceptions, c'est notre libido. Alors, cette mise en avant de l'intensité, il fait la constatation que c'est une valeur qui est partagée par quasiment tout le monde et par des camps de pensée totalement opposés et ennemis. On trouve ça chez les libéraux. Ben le libéral, il va promouvoir la consommation, il va promouvoir la réalisation de soi dans l'entreprise, dans la libre entreprise. Mais l'antilibéral, qui va être complètement contre cette vision du monde marchande, il va nous proposer aussi une vie plus intense, mais qui sera une vie plus intense dans la nature. Ça va être l'intensité de la nature. Donc, curieusement, ils se rejoignent en fait sur ce terme d'intensité. Et donc, le propos du livre, eh bien, ça va être d'essayer de voir, de définir un petit peu plus précisément quel est ce terme d'intensité et de vie intense. Alors, quand on parle d'intensité, d'intense dans la philosophie, il y a quelque chose d'incontournable, c'est la différenciation, l'opposition entre grandeur intensive et grandeur extensive. Alors, pour ceux qui ont écouté par exemple Deleuze parlant de Spinoza, il a tout un cours qui est consacré aux grandeurs intensives et extensives. Alors, si je dis Pierre Lévy, c'est plus petit que Pierre Delmas. C'est exact. Voilà, c'est incontestable. Tout le monde est d'accord. On peut même le mesurer la différence avec précision. Là, on est dans le cadre d'une grandeur extensive. Par contre, si je dis maintenant, Pierre Lévy, c'est plus triste que Pierre Delmas. À ce moment-là, ben, y a plein de questions qui émergent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toujours comme ça? Qui est-ce qui juge? Est-ce que c'est Pierre Lévy qui juge qu'il est plus triste que Pierre Delmas? Ou Pierre Delmas qui juge que Pierre Lévy, c'est plus triste que lui? Ou une tierce personne qui a ce sentiment-là. Donc on voit que c'est très subjectif, hein. C'est un sentiment qui est ressenti, c'est une sensation, et on a du mal à l'appréhender et à la comparer. Alors bien sûr, on pourrait dire, mais il y a quand même des indicateurs externes. On voit bien une personne si elle est triste et si elle n'est pas triste, mais c'est pas fiable. Il y a des gens qui sont impassibles. On peut pas trop savoir ce qu'ils ont à l'intérieur. On pourrait penser que quelqu'un qui est très joyeux, en fait, c'est une façade parce qu'il est très triste à l'intérieur, quoi, de lui. Donc là, on est dans le cadre d'une grandeur intensive et qui est en fait la variation en plus ou moins, mais du même, de la même chose, quoi. Et donc, d'où la difficulté à la fois de la mesurer et de la comparer entre entités. Alors, on peut prendre d'autres exemples dans le domaine de la physique. Par exemple, la lumière, ben, c'est la même lumière qui va être plus ou moins claire. Ou c'est la même matière qui va être plus ou moins chaude. Voilà, donc intensif, ça veut dire que c'est quelque chose d'irrécupérable par le nombre et qui échappe à la mesure. Alors ça c'est vraiment une constante, en fait, qui traverse toute cette histoire de la vie intense, cette idée, en fait, que bah, ça échappe à la mesure et ça échappe du coup à la comparaison, et on a du mal à la cerner, en fait, par des paramètres objectifs. Alors, à partir de là, Tristan Garcia nous propose un récit, c'est ce qu'il qualifie lui-même de récit, avec différentes étapes de la pensée philosophique et de la pensée scientifique par rapport à cette notion d'intensité. Et il nous montre à travers là les tentatives incessantes que l'homme a déployées pour affirmer et aviver l'intensité de sa vie et de son sentiment de vie. Alors, je ne vais pas passer en revue toutes les étapes, mais c'est super intéressant. Je trouve que c'est une leçon de. On prend un cours de philo, quoi, qui est très bien. Alors, je vais m'arrêter par exemple à Newton. Newton amène la notion de force, hein, dans la mécanique, les corps qui s'attirent, la force de gravité. Et dans cette théorie-là, ben c'est la force qui contient l'intensité. Mais la force, elle est extérieure au corps, aux entités. Les corps, eux, dans la physique newtonienne, ils sont inertes. Ils sont dépourvus d'intensité. Il n'y a aucune partie du monde qui existe mieux ou plus parfaitement qu'une autre dans la mécanique newtonienne. tous les êtres se valsent et la fameuse référence au le kilo de plomb, il vaut le kilo de plume chez Newton. Et donc, du coup, en fait, par cette théorie scientifique, bien, l'intensité est exclue de la. Enfin, en tout cas, la vie que je ressens, c'est exclue de cette théorie de cette théorie physique. Et du coup, la science, eh bien, me dépossède en fait de mon intensité. La science la ramène dans la force et elle me considère comme elle considère un caillou ou mon équivalent en plume ou en plomb, quoi. Alors, d'où après eh ben, l'engouement pour l'électricité. Alors, l'électricité, elle est nommée avant. Elle existe avant Newton, hein, elle est nommée à partir de 1600, mais c'est surtout au XVIIIe siècle qu'elle se développe. Alors, l'électricité, bien sûr, c'est une promesse pour la science, pour tout ce qui est énergie, hein. C'est une source, on voit bien que c'est une source d'énergie et que ça va pouvoir rendre de grands services. Mais c'est aussi une promesse pour la pensée. En fait, avec l'électricité, eh ben, tout devient intense parce qu'il y a de l'électricité partout. On fait déjà à l'époque ces expériences sur les animaux, par exemple sur la grenouille, où on va lui faire passer un courant électrique dans sa patte et puis on va voir la patte qui se déplace. Donc, si avec Newton, en fait, la science avait vidé le monde des variations intensives, l'électricité, elle nous réconcilie à la fois avec la nature et les objets techniques. Ça devient l'agent universel, en fait, l'électricité, alors qui est autant un fantasme qu'une réalité. C'est une réalité parce que l'électricité existe, mais c'est un fantasme aussi parce que on l'imagine comme le principe vital qui anime toute chose. Et puis ensuite, ben, la science progresse. On connaît de mieux en mieux l'électricité et l'intensité électrique, ben, ça devient une grandeur comme une autre, qui est parfaitement mesurable, parfaitement comparable, mesurable avec exactitude. Et du coup, elle va échouer à nouveau à continuer à soutenir l'intensité du vivant. Alors, dans les étapes qu'il retrace, il cite, je trouve ça très intéressant, trois figures de l'homme intense. Donc là, on passe dans le 17e jusqu'au 19e et au 20e, 21e siècle. Il nous présente trois figures de l'homme intense, le libertin, le romantique et l'adolescent rock. Alors, je vais parler un peu plus du romantique. Donc, il parle notamment de Kant, son idée du sublime, en fait, qui est quelque chose qui dépasse complètement l'être humain, par rapport qui nous écrase, quoi. Alors, vous avez peut-être déjà vu des peintures de ce peintre allemand, Caspar David Friedrich, le grand peintre romantique, où on voit notamment ben, un petit personnage vu de dos et qui est fait face à un grand paysage de montagnes. Et des fois, enfin souvent, on en a une interprétation qui est de dire, ben, vous voyez, ce petit homme-là, il est rien devant l'immensité de la montagne. Mais en fait, si on voit ça en termes des intensités, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, c'est le petit homme qui prend son intensité et qui la distribue dans le monde entier, en fait, et tout devient intense, quoi. C'est le monde entier qui est intense, quoi. Donc sa propre intensité, elle déborde de l'être et elle envahit le monde entier. Alors l'adolescent rock, je citerai uniquement ce qu'il le cite, la guitare électrique de Jimi Hendrix, comme vision, en fait, de l'intensité de l'adolescent rock, et du coup, il remarque bien qu'on retombe en fait sur l'électricité. Et donc, face à ces trois figures de l'homme intense, le libertin, le romantique et l'adolescent rock, il oppose Alors, ce qui est l'emblème de l'anti-homme intense, qui est le bourgeois. Alors, il dit que c'est, il note bien que c'est très intéressant de bien voir que l'anti-homme intense, c'est pas l'homme inerte, c'est pas l'homme qui fait rien, mais c'est l'homme qui fait tout de manière moyenne, c'est l'homme tiède. Voilà, donc qui est bien représenté par la figure du bourgeois. Alors après tout ça, il nous dit que bah, avec l'intensité, on n'arrive jamais vraiment à l'appréhender. Donc il y a un problème avec l'intensité, qui est que plus on la cherche, en fait, plus on va la perdre. Et alors il nous explique, il essaie de nous expliquer pourquoi. Donc d'abord, quand on essaie de la mesurer, alors il parle d'actuellement, avec tous ces systèmes qu'on a de mesure des intensités physiologiques, avec les bracelets connectés, les capteurs qu'on peut se mettre et qui nous mesurent pendant toute la journée, à la fois bah, notre rythme cardiaque, notre tension, le nombre de pas qu'on a fait, l'altitude qu'on a montée, les calories qu'on a brûlées, etc., etc. Bah, il dit que ça, au bout d'un moment, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça transforme en fait notre sentiment d'intensité en quelque chose de parfaitement mesurable, comparable, et du coup, bah, voilà. Et on est dépossédé, ça nous dépossède in fine de notre intensité. Qui est, donc je rappelle, j'avais bien précisé au début que c'était quelque chose d'important à garder à l'esprit, que ce sentiment d'intensité, son essence en fait, c'est justement d'être quasiment incommunicable, qu'on ne peut pas mesurer et qu'on peut pas comparer. Si on lui enlève ça, en fait, on lui enlève un peu
Fonction.
Bah son essence, son âme, quoi. Alors, on a cherché plusieurs au cours des évolutions, des sortes de pensées, des manières de vivre. L'être humain a cherché des stratégies pour essayer de renouveler cette intensité. Alors, il en cite trois. Alors la première stratégie pour essayer de renouveler de garder vive son intensité, c'est la variation. Donc je m'intéresse pas toujours à la même chose, mais je varie sans cesse de sujet, parce que quand j'ai pris un sujet de manière intense, et ben, ça arrive à un moment où j'en vois la limite, donc ben, je m'occupe d'un autre sujet et voilà, je batifole un peu, je papillonne. D'un sujet à un autre. La deuxième stratégie pour soutenir l'intensité, c'est l'accélération. J'en veux toujours plus. Donc là, un cas emblématique, c'est le sportif, le coureur. Il commence par faire 10 km, après il fait un semi-marathon, il fait un marathon, puis après il dit ah ben, j'ai essayé le triathlon, et puis après il fait des 100 km, des 150 km, le tour du Mont Blanc, en fait, et des choses incroyables, des Ironman, des. Voilà, donc l'accélération pour soutenir son intensité. Et la troisième stratégie, troisième manière de soutenir son intensité, il appelle le primavérisme. C'est l'idée de la première fois qui serait plus intense que toutes les autres fois. Et donc d'où toute cette mise en lumière, cette glorification de la jeunesse, en fait. Et voilà. Alors le problème, ben, c'est que tout ça, au bout d'un moment, quelle que soit la stratégie qu'on essaie de mettre en œuvre, ça s'effondre. Pourquoi? Parce qu'on tombe toujours, à un moment donné, dans l'habitude, voire dans la routine. Et donc cette intensité, en fait. Plus on est intensément, il nous dit, moins on parvient à l'être. C'est ça son paradoxe. Alors, comment, si on veut sauver l'intensité, comment le faire? Est-ce qu'il y a des vrais remèdes pour essayer de sauver l'intensité? Alors, il y aurait deux approches possibles. La première, c'est une approche morale. qui est de dire, ben, je trie entre le bon grain et livré, entre les bonnes intensités et les mauvaises intensités. Par exemple, je dis, l'amour, c'est une bonne intensité, le djihadisme, c'est une mauvaise intensité. Voilà. Alors, lui, il se positionne pas du tout sur ce filon-là. Il dit qu'il, lui, il fait pas de morale, il va faire un livre qu'il qualifie de éthique. Et ça, alors c'est ce qu'il explique à la fin du livre, c'est la partie la plus difficile à comprendre. Et si jamais après c'est un auteur qui, quand le titre, le livre est paru, qui a été reçu dans plusieurs émissions de France Culture. Et à chaque fois, on lui opposait ça, ces contradicteurs, même des contradicteurs de haut vol, en fait, semblaient pas trop avoir compris ce qu'il avait voulu dire. Et lui disait, mais est-ce que, en fait, la question, c'est pas de savoir de trier en fait entre les bonnes intensités, et mauvaises intensités. Il dit, non, c'est pas ça. Lui, il a une approche éthique, c'est-à-dire, il accepte l'intensité. Et il essaie de comprendre la logique mise à l'œuvre. Et alors, il veut sauver, Tristan Garcia, il veut sauver l'intensité parce qu'il considère que voilà, l'intensité, ben, c'est quand même, c'est le sentiment profond de la vie. Et ça, il y croit et donc il voudrait sauver ça, quoi. Donc du coup, il refuse aussi les approches qui sont celles de la sagesse, qui serait de l'ataraxie, qui serait pour lui une négation en fait de cette idée de l'intensité comme sens profond de la vie. Il refuse aussi les solutions de la religion. Pour qui l'intensité, ben, c'est la promesse d'une autre vie, de l'au-delà. Donc c'est plus la vie qui nous concerne ici et maintenant. Et donc il propose, alors c'est là où c'est très difficile et on attend avec impatience son troisième livre pour comprendre un peu mieux ce qu'il veut nous dire. Il nous dit qu'il dissocie pensée et vie. Il différencie la vie et la pensée. Et il dit, c'est pour ça d'ailleurs que j'écris des romans et des essais. Les romans, c'est pour dire la vie, les essais, c'est pour dire la pensée. Et il propose de faire un barrage à l'hégémonie de l'intensité à l'aide de la pensée, et alors pas n'importe quelle pensée, ce qu'il appelle la pensée égale, qui est une pensée ontologique, une manière de voir le monde, en fait, qui est l'inverse d'une vision ordonnée et hiérarchique des êtres. Il dit que sa pensée ontologique de la pensée égale, c'est amener en fait à le plus d'entités, de choses de possible au statut d'être. Donc c'est une vision qui dit qu'il est c'est contre ce qu'on appelle les scala naturae, l'échelle des êtres où on voit en fait bah, y a le peut-être tout à fait en bas il y a la y a des êtres très simples unicellulaires et puis on remonte et puis bien sûr tout à fait en haut il y a l'être humain. Donc il dit que ça, en fait, cette version de l'ontologie qui est une version hiérarchique, ça permet pas justement de faire barrage à l'hégémonie de l'intensité, mais au contraire, si on a cette vision plus égale, étale, en fait, de ce qu'est un être vivant, ben, ça va produire ce barrage qui va éviter que en fait, l'intensité se développe trop, trop forte et envahit tous. Alors, pour conclure, il est temps de conclure. C'est donc une leçon passionnante d'histoire de la philosophie, ce livre. Ce concept d'intensité est particulièrement intéressant et c'est Je trouve que du coup, c'est une des clés pour comprendre un peu mieux, enfin, plein de choses, et notamment ce qui se passe dans le monde contemporain. Et en fait, j'aurais envie de terminer en paraphrasant un peu Jacques Chancel, en lui disant Tristan Garcia et Spinoza dans tout cela. Parce que ce qui m'a frappé, c'est qu'il ne parle jamais, enfin, c'est pas qu'il parle jamais, mais Spinoza, il doit être cité peut-être une fois ou deux fois, mais il ne fait pas vraiment référence à la pensée de Spinoza. Et je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi, je trouve qu'il y a plein de choses en relation entre son sujet et même sa solution, voilà, qu'il met en œuvre. Voilà.